Alors ce matin, on poursuit notre série sur le livre de Josué, le chapitre 9. À la nouvelle de ces événements, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la mer Méditerranée, jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Faites maintenant alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, « Peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi du Bassan, qui vivaient à Astaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très longue longueur du trajet. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers la ville le 3e jour. Il s'agissait de Gabaon, de Képhira, de Béhéroth et de Kirja-Jéarim. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, « Nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire ?»« Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, et il y était question de vous livrer sur tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants et votre présence. » Nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et nous maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. Josué agit envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. » Jusqu'ici, ce long passage, description d'une situation. un épisode dans la conquête du pays promis et qui nous montre pour la deuxième fois que le peuple d'Israël, que Josué, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il met en lumière la faiblesse de leur raisonnement, les failles des hommes dans leur marche avec Dieu. Et je dois vous dire que nous ne sommes pas non plus du tout à la hauteur de notre marche avec le Seigneur, du projet que Dieu a avec nous. On est un groupe de bras cassés. Pardonnez-moi l'expression. On est des personnes qui ont des histoires toutes différentes et on se traîne parfois des boulets, des casseroles en tout genre. Mes amis, l'Église est un rassemblement de pécheurs qui ont des luttes, qui ont des faiblesses. Nous ne sommes pas du tout à la hauteur. Nous avons des peurs. Nous manquons de confiance parfois dans notre Dieu. Nous faisons des compromis. Nous faisons des erreurs. Nous sommes oublieux. Nous n'en faisons qu'à notre tête, etc. Tant et tant d'occasions où nous démontrons par notre attitude que nous ne sommes pas à la hauteur de cette grande et belle histoire que le Seigneur souhaite écrire avec nous. Mais, et c'est ce qu'on va voir aussi avec l'expérience de ce peuple, et ce texte nous rappelle que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité par notre faiblesse. Dieu n'est pas limité par notre faillite pour avancer dans son projet envers nous. Rien ne le limite. Il est celui qui agit avec nos faiblesses. Il est celui qui maîtrise tout. Simplement quelques éléments de contexte. Dans les 8 premiers chapitres, on a vu ce peuple qui est entré dans ce pays promis de Canaan. Le pays de Canaan. Un pays que le peuple est amené à conquérir. Et ce pays, nous dit la parole de Dieu, est habité par les ennemis de Dieu. Des peuples qui sont arrivés pour Dieu au comble de la méchanceté, au comble de l'idolâtrie, au comble de la perversion, de la rébellion envers Dieu. Et les instructions à ce moment-là de l'histoire sont claires vis-à-vis de cette situation. Voilà arrivé au terme de la grâce pour ces peuples. Pour ces peuples. Israël doit prendre possession de ces terres que Dieu leur a données. Et par cette prise de position doit exercer son jugement sur ces nations idolâtres et perverties. Et avec Paul, la semaine dernière, on avait vu qu'à cette fin du chapitre 8, le peuple s'est rassemblé. Ils ont fait un autel, ils ont rappelé l'alliance de Dieu avec eux, ils ont rappelé la loi, ils ont rappelé cette alliance que Dieu avait faite pour eux. En Josué 8, 34, Josué lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions. En fait, ce peuple a pris connaissance des instructions de Dieu dans cette conquête que Dieu leur avait confiée, et elles étaient claires. Je propose juste de lire Deutéronome 7, par exemple, qui dit ceci, lorsque l'Éternel, et c'est ce qu'ils ont dû lire, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Guérisiens, les Amoréens, les Canaéens, les Phérisiens, les Héviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage, etc. Tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils, etc. Dieu avait été clair, ils sont arrivés, ce peuple, leur méchanceté est arrivée à son terme. Et par votre prise de ce territoire, vous manifestez quelque part le jugement sur ces nations. Israël doit livrer bataille pour prendre possession. Ne pas faire alliance avec eux. Et jusqu'à présent, rappelez-vous, ils ont fait déjà deux batailles, Jéricho et là, vis-à-vis de Haï. Et on avait vu que même dans ces deux batailles, ça a été déjà une source d'enseignement pour ce peuple. Ils ont dû faire confiance à Dieu. On a réalisé qu'ils n'étaient pas non plus à la hauteur. Ils ont manqué de sagesse pour la deuxième ville. Ils ont dû subir une humiliation. Ils ont dû se repentir. Et ces victoires, et on est là au début du texte, ces victoires ont fait du bruit. La nouvelle du sort de ces deux villes qui ont été vouées à la destruction s'est propagée. Cette nouvelle s'est propagée dans la région. Et vous le voyez, la nouvelle de ces événements, c'est le début du texte qui commence comme ça. Là, on arrive avec notre chapitre 9 de ce matin. Et on voit dans ce texte deux façons de réagir face à cette nouvelle qu'une sanction de Dieu est en train de de tomber sur ces peuples de cette région. Dans la première partie, on a cette première réaction, versets 1 et 2, hein, à la nouvelle de ces événements, les rois qui se trouvaient à l'ouest de Jourdain, dans la vallée, dans la montagne, voilà tous ces peuples qui sont listés, s'unirent pour combattre ensemble contre Israël et contre Josué. Donc là, face à cette peur de ce peuple qui est face à eux, ils s'unissent. Ils font bloc, ils font des alliances, ils vont tenter de monter une résistance unie pour combattre cet envahisseur. Et les épisodes qu'on verra dans la suite des passages vont montrer cela. Ces peuples qui vont en vain essayer de se positionner contre militairement, même plus nombreux, face à la sanction que l'Éternel veut apporter par ce peuple d'Israël. Israël, ici, va être confronté à des oppositions qui sont claires. Et dans notre vie aussi, on a des oppositions dans notre marche avec le Seigneur qui sont claires. Dans la vie chrétienne, il y a des oppositions qui nous sont claires. Et on a tout ce développement du reste du passage avec une opposition qui est bien plus subtile. Cette deuxième réaction de cette grande ville Gabaon. Ils veulent aussi protéger leur vie. Mais là, ils vont faire preuve d'ailleurs de plus de malins. Ils vont être plus malins. Ils vont faire un bluff, je l'appelais comme ça, pour sauver leur vie. Alors vous l'avez compris, hein, la lecture de ces passages, de cette description. Ils sont les prochains, la prochaine ville sur la conquête, sur la route d'Israël. Et en fait, ils vont se faire passer pour des habitants qui viennent de très très loin. Pour montrer qu'ils n'ont rien à faire avec cette région-là. C'est un vrai sketch. Et on a toute cette description de comment ils s'habillent, de tout ce qu'ils préparent, de tous ces stratagèmes. Relisons avec le verset 4. Ils eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage, de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin déchirées et recousu. Verset 5, ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Tout ça pour montrer à Israël que la route était longue et que leur campement, leur ville était loin d'Israël, alors que Gabaon est cette prochaine ville. Et on le verra probablement dimanche prochain, mais dans le chapitre 10, on apprend que Gabaon est une grande ville de la région. Une ville qui est nommée comme une ville royale. Il y avait une importance et dont les habitants sont réputés comme des hommes vaillants. C'est pas juste qu'ils étaient peureux. Non, ils étaient vaillants. C'était une belle ville et ils ont agi avec ruse. Ils ne comptent pas sur leur force. Ils ne comptent pas sur leur armée pour tenter de s'en sortir. Ils font user d'un coup de bluff, de stratagème pour échapper à la mort. Et ça devrait passer. Verset 6, on lit, ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dire « Nous venons d'un pays éloigné, faites maintenant alliance avec nous. » Ce peuple de Gabaon cherche à faire alliance. Et c'est ce peuple à connaissance de la politique étrangère, on pourrait dire, d'Israël. Parce qu'ils leur font une proposition de paix. Ils savent que Israël, dans leur loi qu'ils ont lue, ils ne devaient pas faire la guerre avec ces nations qui étaient éloignées, mais au contraire chercher la paix avec ces territoires extérieurs à ceux que Dieu leur avait donnés. Mais on voit que Israël est suspicieux. Hein. Et si ces personnes sont des voisins, ce n'est pas possible de traiter la paix avec eux. Alors il pose cette question, peut-être que vous habitez sur notre territoire. Comment ferions-nous alliance avec vous? Pour Israël, c'est clair, on ne peut pas faire alliance avec quelqu'un qui est proche de nous. Ils répondent, qu'est-ce qu'ils répondent? Nous sommes tes serviteurs. Josué leur demanda, mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? Nous venons d'un pays très éloigné. Et à cause de la renommée de Dieu, à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu, on a entendu parler de lui. Et regardez, ils ne font pas référence à Jéricho, à Haï, ils font référence à ce qui s'était passé il y a longtemps déjà, il y a quelques années. On nous a raconté tout ce qui a été fait en Égypte, de la manière dont vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain. Et maintenant, nous sommes venus vers vous. Verset 11, nos anciens et nos habitants de nos pays nous ont dit « Prenez avec vous des provisions, allez à leur rencontre, nous sommes vos serviteurs, faites maintenant alliance avec nous. » Ils ont un sacré tour de main, un sacré tour de flatterie et la ruse fonctionne. C'est ce qu'on voit. Hein. Josué est en train de tomber dans le panneau. On a l'impression que leur devoir d'hospitalité, ils voient leur état, ils ont l'air épuisés, exténué après un voyage harassant. rien ne peut autant impressionner que la manière dont ils étaient habillés. Rien ne pouvait flatter de reconnaître que une nation de loin reconnaît qu'on est serviteur du Dieu Tout-Puissant. C'est flatteur d'entendre parler des exploits. Ils reconnaissent le bras de l'Éternel. Verset 14. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Verset 15, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Un bluff pour sauver leur vie. Quelle astuce! Mensonge, flatterie, fausse humilité, simulacre, pitié. Et Josué, résultat, Josué fit la paix avec eux, conclut une alliance avec eux, par laquelle il s'engage à leur laisser la vie. Et le texte nous dit assez sobrement l'erreur qu'ils ont fait. Ils ne consultèrent pas l'Éternel. Quelle présomption! On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Israël sort de 2 victoires. Ils sont gonflés à bloc, ils ont lu la parole de Dieu ensemble, ils ont été comme un peuple uni à écouter ce que Dieu a fait, ils ont rendu un culte, ils ont fait des sacrifices, ils se seront retrouvés ensemble dans un temps de communion fort. Et là, ils jugent trop rapidement une situation. Ils ont les yeux rivés sur ces sandales délabrées, sur leurs miettes de pain. Ils ont des éléments tangibles, ils voient des choses. Ils voient ses habits, tout a l'air ok. Mais ils oublient l'essentiel. Ils ne consultèrent pas l'Éternel. Ils sont en train de se reposer sur eux-mêmes, sur leur propre raisonnement, sur leur propre discernement, sur leur propre vue, sur leur propre capacité. Et là, on a déjà un enseignement pour nous. Leur propre assurance va s'annoncer comme une faillite dans cette histoire. On connaît tous cette sagesse humaine, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dieu va encore plus loin que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et pourtant, ils avaient déjà expérimenté avec Haï qu'ils avaient oublié de le consulter. On oublie vite, et je crois qu'on est pareil, on oublie vite. Et la ruse aurait probablement échoué si Josué avait pris le soin de consulter l'Éternel, celui qui est. Celui qui est. Un bluff pour sauver la vie. Est-ce qu'on a ce réflexe quand on a une réflexion à entreprendre dans la vie courante, de mettre Dieu dans l'équation? Ou est-ce qu'on présuppose de nos forces, de notre piété, de notre vie avec le Seigneur? Est-ce qu'on prend le soin de vérifier ce que Dieu dit, de le consulter dans sa parole, de le prier? Tellement facile de se reposer sur nos capacités, sur nos lauriers, sur nos victoires, d'en oublier Dieu. Il est tellement facile de nous reposer sur nos discernements, sur nos propres discernements, sur une réussite du passé. Il est très facile de se laisser persuader par des arguments entendables. On est dans le domaine qu'on gère. On voit des choses. Pas besoin de prier pour cela. Mais on peut se faire avoir très vite. Et là, on le voit, c'est un peu l'ironie. On est témoin de ces choses. Quand on avance par la vue, quand on avance par les sens et non par la foi et de ce qu'on sait de Dieu. Ils ont vu ces sandales, ils ont vu ce pain, au point d'oublier de demander Dieu ce qu'il en pensait. En fait, on n'est pas apte à être nos propres guides dans notre marche avec le Seigneur. On est faillible. Nos sens, nos émotions nous trompent souvent. Il suffit qu'on nous flatte dans un domaine ou à l'autre. On maîtrise. Il suffit qu'on a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est cela le compromis. On se laisse convaincre par ce qu'on voit, par ce qu'on ressent, plutôt par ce qu'on sait de Dieu. Josué a été ici et son peuple victime de la séduction, du compromis. Ce n'est pas un obstacle frontal, c'est un obstacle subtil, du compromis. Ils ont délaissé la parole. Moi, je trouve que c'est tellement contemporain, ce type d'obstacle qui peut se présenter à nous. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que nous prenons soin de le consulter? On se lance tellement facilement dans des engagements, comme Josué avec les Gabaonites, et pourtant, on devrait peut-être consulter l'Éternel. Combien de personnes se sont engagées, et, en tant que responsable d'église, on le voit trop vite dans une relation sentimentale, dans le mariage, à la hâte. Combien de compromis seraient évités si on se posait les bonnes questions, si on regardait à Dieu, si on posait les questions à Dieu, si on vérifiait dans sa parole. pourrait se poser la question, hein, dans quel piège pouvons-nous tomber aujourd'hui? Peut-être vous êtes peut-être face à des réflexions à entamer. Quels sont les pièges? Ce texte est une invitation à ne pas nous reposer sur notre propre réflexion, mais à dépendre de Dieu. Prie Dieu, consulte-le. Ne te laisse pas avoir. Même pour une histoire de sauver sa peau. Si Josué avait attendu 3 jours, c'est ça toute l'ironie aussi du texte, ils auraient découvert le superfuge et ils se seraient épargnés bien des ennuis par la suite. Et on voit hein, cette déception verset 16, 3 jours après la conclusion de ces alliances, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers la ville le 3e jour. Il s'agissait de cette ville Gabaon, de Képhira, Béroth et de Kirjatharim. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient fait alliance jurée par l'Éternel. D'après la loi pour Israël, ils ne devaient pas faire alliance avec ce peuple. En tout cas, pas de cette façon-là. Ces Gabaonites étaient des voisins, juste des voisins. Et maintenant, Josué, ses hommes, le peuple, vont devoir vivre avec les conséquences de ce compromis. Israël est tombé dans le piège. Ils n'ont pas assez réfléchi. Mais on voit dans la deuxième partie qu'il y a un engagement à sauver leur vie. Je poursuis avec verset 18. Hein. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre leur chef. Verset 19 encore. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons prêté sorement au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Donc là, ils ont en tête l'alliance qu'ils ont faite avec eux. Vous auriez fait quoi à leur place? Vous auriez découvert ce superfuge? Est-ce que vous aurez suivi votre plan initial qui avait été, ce sont des voisins, c'est la prochaine ville sur votre conquête de ce pays que Dieu nous a demandé de prendre place? Livrons bataille! Tuons-les. Peut-être que certains du peuple se sont réjouis qu'il y a eu la paix avec cette belle cité de Gabaon. Offrir la paix au lieu de le conquérir par la force. N'est-ce pas simplement une toute petite partie du territoire qui tombe entre nos mains sans véritablement livrer bataille? Ou maintenant vous vous engagez à assumer votre erreur plutôt que rompre une alliance? Donc là, ils sont, on le voit, ils vont assumer leur engagement. Josué ne veut pas faillir à nouveau. À 3 reprises, le texte nous le dit, et je voudrais prendre le verset 20, on l'a lu déjà, mais le verset 20, « Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du sermon que nous leur avons fait. » Ils ont pris un engagement de prendre soin, de leur laisser la vie, et nous allons le tenir parce que nous l'avons fait devant Dieu. Nous l'avons fait. Ce texte nous rappelle la force d'un engagement fait au nom de Dieu. La parole donnée, elle est quelque part sacrée. Je pense que Josué a en tête les épisodes d'avant. S'il avait laissé ses soldats donner libre cours à leur colère en se jetant sur les Gabaonites, l'alliance aurait été bafouée. Parce qu'il parle de la colère de Dieu qui se déverse. La colère de Dieu s'est déversée sur ce peuple à cause de la faute d'un seul qui a désobéi à l'alliance qu'il avait faite au nom de Dieu. Par le passé, nous avions rompu cette alliance, mais maintenant, nous voulons tenir cet engagement. Israël n'a, par le biais de ses chefs, n'a pas obéi à l'alliance que Dieu avait faite, de se dire « mais ne faites pas alliance avec ce peuple, avec ces peuples ». Maintenant, ils assument. Et vous avez vu, hein, le peuple rouspète. Il y a déjà une petite querelle entre eux. Mais les chefs refusent de rectifier leur erreur. Ils ne veulent pas transgresser d'autres lois. Ils ne veulent pas rajouter une faute sur une autre. C'est surprenant, hein ? On s'est engagé, on a fait une alliance avec eux au nom de Dieu et on veut la tenir maintenant. Alors même, et qu'on a failli dans l'affaire. D'ailleurs, des siècles plus tard, on apprend que le roi Saül a rompu un peu cette alliance et il a attaqué les Gabaonites. Et Dieu va punir le peuple par 3 ans de famine. Et 7 des enfants, des fils de, du roi Saül vont être même d'ailleurs tués, parce qu'ils ont rompu, bien des siècles après, cette alliance qui avait été faite au nom de Dieu. Et ici, Josué obéit, on le voit verset 26. Josué agit envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau par l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, en l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. C'est incroyable quand même. Une ruse pour sauver leur peau. Les voilà maintenant, Israël ont failli devant Dieu, mais les voilà engagés devant Dieu à respecter cette clause. Et on voit, et c'est là qu'on voit peut-être aussi toute la grâce de Dieu, que cette ville de Gabaon, ils sont employés même, vous l'avez vu, pour le service du temple, pour l'eau et le bois du peuple. Bien sûr, ils sont esclaves. Josué les attache au service du sanctuaire. Et dans la suite du livre de Josué, on le verra avec le chapitre 10, Dieu va montrer à Israël qu'ils ont fait ce bon choix de respecter cette alliance. Parce qu'ils vont avoir la victoire alors qu'ils vont protéger cette ville. Dieu va montrer qu'il a approuvé, qu'ils ont respecté cette alliance, qu'ils ont néanmoins contractée avec cette ville. Quelle grâce de Dieu! Peu importe dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui, et c'est ce que nous enseigne ce texte, peu importe le compromis que nous pouvons faire, il n'est jamais trop tard pour obéir. Et c'est là que Josué obéit. Il change, il réalise, ils ont fait une erreur. À n'importe quel moment de ta vie, tu peux faire le choix de l'obéissance et de respecter le nom de l'Éternel, de respecter la sainteté de Dieu, d'assumer ses choix, de ne pas baisser les bras, faire le choix de l'obéissance. Dieu honore l'obéissance. Et on voit aussi que Dieu n'est pas pris de court. Et on le verra dans la suite du chapitre 10, les semaines à venir. Malgré ce compromis, malgré l'absence de discernement de Josué et de ses chefs, Dieu est celui qui concocte avec nos manquements, qui fait avec nos manquements, qui fait avec nos faiblesses, qui fait avec nos compromis. Là, la ville de Gabaon, leur vie est épargnée. Ils ont fait preuve de ruse, de compromis, mais ils y eurent la vie sauve. Moi, je me dis, ils auraient pu agir comme Rahab, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ils auraient pu implorer la grâce, ils auraient pu implorer le pardon. Ils ont craint pour leur vie, ils ont craint quelque part, ils ont reconnu la crainte de Dieu et ils acceptent d'être esclaves. Ils acceptent d'être sous la servitude, sous un esclavage pour avoir la vie. Et ils pourront servir, ils pourront couper du bois, ils pourront puiser de l'eau pour l'autel et la maison de l'Éternel. Leur cœur n'a pas été endurci pour faire la guerre à Israël. Israël a négligé de consulter Dieu et il y a eu des conséquences. Le peuple est mécontent, ça murmure. Ils perdent 4 villes. Une région probablement très, très, très fructueuse. La présence de ces païens au milieu d'eux va poser problème. Et Dieu leur avait dit. Mais qui n'a jamais fait d'erreur? Et je trouve la Bible, elle est forte. Dans notre marche à Seigneur, qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas fait pas bien confiance au Seigneur? Qui a fait de mauvais choix? Nous ne sommes pas à la hauteur, comme je l'évoquais au début de notre marche avec le Seigneur. Dieu est celui par lequel on peut se relever et avoir la victoire. C'est lui qui a le dernier mot. Et l'histoire et l'issue de toutes ces choses ne dépend pas de cette obéissance du peuple d'Israël, mais dépend de Dieu, du Dieu de victoire. Les Gabaonites, par leur ruse, ont reçu la vie. Et bien plus, ils vont être même, leur ville va être une ville refuge. À un moment donné, certaines villes vont être choisies dans le territoire. Quand vous avez fait un méfait, quand vous avez tué par inadvertance quelqu'un, vous aviez des endroits où vous pouvez aller vous courir, vous réfugier. Ben, cette ville-là a eu la grâce de pouvoir accueillir des gens qui allaient devoir attendre grâce, qui allaient devoir attendre justice. Dieu, il agit avec grâce. Dieu n'est pas limité par nos manquements. Dieu n'est pas limité par nos faiblesses, par nos faillites pour mener à terme sa mission. Je conclue simplement, on pourrait la laisser comme phrase, mais Dieu n'est pas limité par nos faiblesses pour agir. Mais je me suis dit, avec Jésus-Christ, on n'a pas besoin de bluff pour sauver notre vie. On n'a pas besoin d'aller devant Dieu avec une façade. Il nous donne la vie en sachant toutes nos faillites, en sachant notre péché, en sachant qu'on n'est pas beau à voir. Dieu nous accepte. Son œuvre de Christ couvre tout. On n'a pas besoin d'avoir une façade de dire, regarde, Seigneur, je suis plutôt pas mal. Il faut que tu m'acceptes dans ton peuple. Non. On peut faire tomber les masses devant Dieu. Son sacrifice est pleinement suffisant. Pas besoin de bluffer pour être sauvé. Et on voit aussi que son engagement, un peu à l'image de Josué ici avec ce terme, il est ferme. Dieu s'est engagé à nous aimer, à faire alliance avec nous, à nous donner la vie. Et il est ferme. Personne ne peut nous ravir dans son salut. Nous pouvons venir. Voilà une alliance qu'on ne peut pas rompre. L'alliance que Dieu a contractée en Jésus-Christ par sa vie ne peut pas être rompue. Pas besoin de ruse, c'est toute la grâce. Il n'a pas mis dehors les Gabaonites. À combien plus forte raison il ne nous met pas dehors. Si tu viens et tu le reconnais tel que tu l'es. Quel Dieu de grâce. Et je pense que c'est ça aussi l'enseignement de ce passage de Josué 8, 9. Qu'il fait grâce, qu'il prend avec nos manquements, nos faillites. Qu'on n'a pas besoin de bluffer devant lui pour sauver notre vie. Au contraire, il nous accepte. Je propose qu'on prenne un temps pour louer et bénir le Seigneur pour cette grâce. Nous n'étions pas meilleurs que les Gabaonites, nous n'étions pas meilleurs que Josué et son équipe et ce peuple. Nous faillissons dans bien des domaines. Mais nous avons un Dieu qui ne faillit pas dans son engagement, dans son alliance, dans son amour envers nous.